Aujourd'hui, le Seigneur nous propose, à la liturgie, pardon, nous propose de suivre les pas de Jésus et à travers l'histoire des Hébreux au désert. Cet épisode est très fameux, celui du buisson ardent. Tandis que Moïse va faire paître les troupeaux, non seulement dans le désert, mais par-delà le désert. Eh bien, il se passe ce fait, cette rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu de la purification, nous le savons bien. Les Hébreux y errèrent pendant 40 ans, nous rappelle saint Paul dans la seconde lecture. C'est le lieu 40 jours où Jésus affronta le démon et les propres défauts de la nature humaine, non pas les siennes, mais ceux de l'humanité, à travers les trois tentations possibles, les trois types de tentations. Alors, si le désert, c'est le lieu de la purification, l'au-delà du désert, l'après-désert, en quelque sorte, c'est Dieu lui-même. Pour les Hébreux qui suivaient Moïse, c'était la terre promise. Mais pour nous qui suivons le Christ, l'au-delà du désert, ce lieu de purification, de tentation, d'épreuve, de tribulation peut-être aussi, la vie présente, eh bien c'est Dieu, cet au-delà du désert. Et c'est vers lui que nous tournons notre regard en ce milieu de carême. Le grand message que Dieu, à travers le feu du buisson ardent, eh bien, donne à Moïse, c'est sa mission, aller libérer le peuple qui est esclave en Égypte. Et c'est aussi, eh bien, on peut le dire, toute la vocation chrétienne qui est exprimée ici. Par l'évangélisation, eh bien, nous libérons, comme Moïse le fit en son temps, eh bien, les hommes de la dictature de l'Égypte, à travers ses valeurs, à travers ses pressions sur chacun d'entre nous qui vivons dans cette société païenne. C'est un bel appel. Alors, on est certes démunis comme Moïse. Mais Seigneur, je ne sais pas parler, dit-il. Et puis, qui vais-je annoncer? Mais nous savons qui nous devons annoncer. Et pour parler, eh bien, il suffit de rendre compte de notre foi, du bonheur de vivre avec Dieu. Ce nom divin qui est donné à Moïse, alors là, je suis obligé de dire que c'est affreusement traduit ici. Je suis qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait presque dire, je te répondrai pas. Ta question est tellement idiote, je te répondrai même pas sur cette question. Je suis qui je suis, allez, cherche encore. C'est évidemment pas ça. Quand on regarde le texte hébreu, ça veut dire je suis, point final. Yahvé, je suis le verbe être. Alors on peut gloser un peu, je suis celui qui est, par exemple, pour expliquer un peu le sens de la formule. Et on l'explique encore mieux lorsqu'on change les temps. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui qui, par son omniprésence, couvre toute l'histoire. Il est celui qui est la source de tous les êtres. Il faut accepter d'avoir cette souveraineté fondamentale du Créateur d'abord. Et puis comprendre par là même que Dieu est nécessaire à la vie des âmes, à la vie de notre âme, bien sûr, mais de toutes les âmes. Et nous voyons les hommes chercher Dieu à tâtons, dans l'obscurité, à travers des expériences souvent dangereuses, mais qui flattent leur curiosité. Moïse aussi était curieux. Mais Moïse avait été préparé à cette rencontre avec Dieu. Il s'approche par curiosité pour voir quel est ce miracle incroyable, un buisson qui brûle sans se consumer, là, au milieu du désert. Mais Moïse avait quitté l'Égypte, lui, 40 ans plus tôt. Et il vivait depuis 40 ans à Madian. Il était préparé par Dieu, puisque son beau-père, était le grand prêtre de Madian. Et quel dieu, quelle divinité priait-il? L'Exode ne nous dit rien sur cette divinité. Elle était mystérieuse, elle était comme celle, comme le désert, une divinité transcendante, et probablement c'était plus qu'une monolâtrie, un culte unique. Non, c'était par exemple un monothéisme, mais dans une divinité inconnue. Peut-on croire que Dieu ait voulu préparer son serviteur à libérer lui-même les autres, prisonniers de l'Égypte, en l'invitant à faire alliance avec un grand prêtre polythéiste, comme en Égypte? Est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des patriarches, était plus connu que ce Dieu de Jéthro, finalement? Qu'est-ce que les Hébreux pouvaient savoir par leur tradition de ce Dieu dont ils n'avaient pas fait l'expérience? Ils savaient seulement que leurs ancêtres, les trois grands patriarches, avaient rencontré ce Dieu, l'avaient entendu, mais ils n'avaient promulgué aucune parole, aucune loi morale, hormis la circoncision. Il n'y avait rien. Finalement, le Dieu de Jéthro était une bonne préfiguration de ce Dieu qui était à découvrir pour Moïse. Donc, c'est l'expérience vraiment humaine, universelle, qui nous rejoint, que nous rejoignons ici dans ce récit-là. Moïse a été préparé pendant 40 ans, c'est-à-dire une période de maturité, pour rencontrer Dieu enfin et pour pouvoir l'entendre. Dieu est nécessaire à la vie des âmes. Il ne pouvait pas rester dans le désert sans connaître Dieu, sans le rencontrer. Et nous-mêmes, tous les hommes qui vivent dans ce désert de la vie terrestre, pas un désert évidemment au sens physique du terme, matériel, mais ce désert spirituel, malheureusement, eh bien, nous sommes destinés, nous avons un absolu besoin de rencontrer Dieu. Pendant le carême, il faut creuser cela. Dieu, c'est la condition du bonheur. Et l'espérance ou l'expérience de Dieu est fondamentale pour expliquer la vocation de Moïse, comme celle des patriarches, comme celle de tous les grands guides et les grands saints de l'Église. La rencontre de Dieu, c'est ce qui donne vie à la loi morale. Une loi morale sans la rencontre de Dieu, c'est quelque chose de vide, c'est un règlement qu'on peut admirer quand on est un peu sage et un peu cultivé, mais rien de plus. Un idéal très beau, très noble, mais qui est toujours pour les autres, parce que les démons nous rejoignent très vite pour nous faire tomber. Saint Paul, lui, dans son épître, nous dit que les Hébreux, dont les cadavres jonchèrent le désert pendant 40 ans, ces Hébreux-là, furent baptisés dans la mer et dans la nuée. Le baptême a deux aspects, c'est une préfiguration du baptême chrétien, c'est un renvoi implicite que fait saint Paul ici. Dans la mer d'abord, la mer c'est le symbole des valeurs païennes. Ça fait partie du baptême en quelque sorte. Le combat spirituel, la purification du désert, fait partie de ce qui prépare à rencontrer Dieu. Ils ont été baptisés dans la mer. Et dans la mer, ils ne se sont pas noyés comme les Égyptiens, ils ont marché à pied sec. Et ils ont donc dominé le combat spirituel, les tentations qui leur étaient offertes. Ils ont été baptisés dans la nuée, et la nuée, c'est l'Esprit Saint. Donc, il ne suffit pas de se purifier, il faut aussi que Dieu vienne à notre rencontre. Et cela, c'est la prière et c'est tout l'effort de la vie morale qui nous permet de le faire. Franchir les eaux des valeurs païennes pour rencontrer enfin Dieu. Cette nuée était ténébreuse le jour, c'est le signe du fait que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Mais lumineuse la nuit, C'est-à-dire que Dieu nous donne toujours une direction à suivre, il nous accompagne toujours, même dans la nuit spirituelle que forment les valeurs païennes en général. L'Évangile, enfin. L'Évangile commence par l'énonciation de deux faits divers. Ce sont de simples faits divers. Des Galiléens qui s'étaient attroupés, qui s'étaient rassemblés sans demander la permission à Pilate, et Pilate, qui craignait toujours les révoltes, avait envoyé la troupe pour les massacrer. Et puis une tour qui à Jérusalem s'est écroulée et avait tué 18 personnes au passage. Qu'est-ce que ces faits divers, eh bien, nous disent ? Eh bien, ils nous disent que la vie des païens et leur mort aussi sont privées de sens lorsque Dieu ne vient pas éclairer leurs ténèbres. Leur vie, leur mort, se résume à quelques faits divers. Voilà toute la valeur d'une vie humaine vécue loin de Dieu. Méditons bien cela. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que mettras-tu dans ton tombeau si ce n'est toi-même ? Le figuier stérile au milieu de la vigne, ce figuier-là, eh bien, pour nous montre la patience de Dieu, d'abord, évidemment, mais en même temps, donc il est patient, il consent à l'intercession de son serviteur pour lui accorder une année de plus, mais on voit encore l'inéluctabilité du châtiment qui viendra. La stérilité conduit à la mort, la stérilité spirituelle. Elle ne peut pas mener à la vie. Et ça, cette loi-là, une loi universelle, eh bien, Jésus la confirme dans sa parabole. Inéluctablement, celui qui se fit à lui-même, qui ne s'ouvre pas à Dieu en cette vie, qui ne met pas tout simplement son espérance dans un monde supérieur, éternel, donc l'éternité, eh bien, celui-là sera absorbé par son matérialisme, absorbé par son manque d'élan, son manque d'espérance, car l'espérance, c'est désirer ce bien éternel qu'est Dieu, ce salut qu'il nous apporte, qu'il nous propose. Nous voici donc au milieu du carême. Je vais faire un peu de pub là pendant que j'y suis, mais j'ai écrit, c'était en 2018 maintenant, un petit livre sur les Hébreux au désert, c'est le titre. Ben, voilà un livre que je vous recommande, parce que je l'ai écrit spécialement pour cette méditation du carême, pour avancer dans les épreuves de la vie présente vers un bien meilleur. Au cours de cette Eucharistie, eh bien, intensifions notre désir de Dieu, le désir de le trouver.